Dr Craig Kinner, Act, Conférence 4. Crédibilité des miracles. Copyright 2024 Craig Kinner et Ted Hildebrand. Il s'agit du Dr Craig Kinner dans son enseignement sur le livre des actes. Il s'agit de la session 4, Crédibilité des miracles. Dans les sessions précédentes, nous avons examiné certaines caractéristiques historiques de Luc et des actes. Celles-ci sont importantes dans la mesure où nous nous intéressons aux informations historiques, que nous devrions au moins examiner quelque peu le livre des actes puisqu'il s'agit d'une monographie historique. Gardez à l'esprit que lorsque nous parlons d'informations historiques, il s'est passé bien plus de choses dans l'histoire que ce que nous pouvons démontrer historiquement et que les textes mêmes des historiens sont une forme de preuve. Le problème est que lorsque nous recherchons des preuves corroborantes, nous ne les avons pas toujours. Pour autant que l'on puisse le dire en termes historiques, Luc est un très bon historien. En tant que chrétien, nous pourrions même être enclins à dire, eh bien, nous sommes enclins à dire encore plus que cela. Je veux dire, les actes font partie de notre canon. Nous croyons que Dieu nous parle à travers cela en tant que chrétien. Mais ce que j'essayais de faire, c'était d'examiner comment nous pouvons aborder ce problème en utilisant les méthodes historiques dont nous disposons. Mais maintenant, je veux examiner quelque chose de caractéristique de l'écriture de Luc. Luc écrit un ouvrage en deux volumes, et il existait en fait un genre d'œuvre parallèle. Plutarque écrivait des biographies parallèles, par exemple, d'Alexandre et de César, d'un conquérant grec et d'un conquérant romain. Les comparaisons n'étaient pas entièrement méritées. César vient de faire une bonne propagande. Mais en tout cas, il avait souvent des biographies grecques et romaines parallèles, et celles-ci étaient si populaires que certaines personnes en écrivaient même des imitations. Dans l'Ancien Testament, vous voyez Élie, puis vous voyez Élisée répéter de nombreuses œuvres d'Élie. Vous n'avez pas deux volumes pour ça. Josué répète également certaines œuvres de Moïse, comme la séparation du Jourdain. Ce n'est pas comme la séparation du Yom Suf, la mer, mais néanmoins la séparation du Jourdain. Et il existe parfois des parallèles littéraires entre eux. Mais les Grecs ont largement développé cette technique, et Luc est capable d'utiliser ce genre de technique. Ce n'est pas qu'il laisse de côté tout ce pourquoi il n'y a pas de parallèle, mais Luc aime souligner les parallèles là où il a du matériel qui correspond à cela. Cela nous aide donc de lire Luc et Actes ensemble. Maintenant, évidemment, au niveau de la paternité, il y a très peu de doutes. Luc a écrit les deux volumes. Mais en termes de vie parallèle, il existe de nombreuses similitudes entre le volume de Luc et le livre des Actes. Évidemment, le cadre est tout à fait différent. La Galilée rurale pour une grande partie de l'Évangile et les centres urbains du monde méditerranéen oriental pour une grande partie du deuxième volume, en commençant par Jérusalem. Mais c'est un ouvrage en deux volumes. Et dans les exemples de vie parallèle que nous avons, Jésus est un, et ce langage est utilisé spécialement pour Jésus. Ésaïe 61 et Luc 4, puis cela s'applique à nouveau à Jésus dans son discours dans Actes 10, 38. Mais aussi, l'Église est habilitée par l'Esprit. Joël 2 est cité dans Actes 2. Vous avez, vers le début de leur ministère public, une déclaration programmatique de l'Ancien Testament pour Jésus, Ésaïe 61, et pour l'Église, Joël 2. Vous avez les signes de Jésus. Beaucoup d'entre eux se répètent avec les signes de Pierre et de Paul, par exemple la guérison d'un paralysé. Vous avez trois épreuves de Jésus. C'est dans l'Évangile de Luc et seulement dans l'Évangile de Luc. Trois procès de Jésus, deux devant un gouverneur et un devant Hérode. Dans ce cas, c'est Hérode Antipas. Trois épreuves de Paul vers la fin des Actes. Il y a en fait d'autres épreuves en cours de route, mais trois épreuves vers la fin, deux devant les gouverneurs et une devant Hérode. Dans ce cas, Hérode Agrippa II. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 24. Et des quatre évangiles, c'est seulement dans Luc. Eh bien, que réagit le premier martyr des Actes? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Père, dit Jésus, entre tes mains. J'engage mon esprit. Étienne, à l'instar de son Seigneur dans Actes chapitre 7, Seigneur, reçois mon esprit. Donc, vous avez ces parallèles. Maintenant, certaines personnes regarderont les parallèles et diront, d'accord, il faut simplement inventer cela. Cependant, des choses comme, entre vos mains, j'engage mon esprit. Luc n'en fait pas grand-chose. Luc ne le savait peut-être même pas, mais nous avons la preuve qu'à cette heure de la journée, c'était l'une des prières que le peuple juif priait régulièrement à partir d'un psaume qui dit, je m'engage envers toi. Donc, ce langage conviendrait à Jésus. Cela correspond au propre contexte historique de Jésus. Et un martyr voudrait-il suivre l'exemple de Jésus? Eh bien, généralement, lorsque nous sommes persécutés, nous essayons de suivre l'exemple de Jésus aujourd'hui. Alors pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, le fait que Luc insiste sur ce lien est le point que je souhaite souligner. Longueur. Souvent, les écrivains créent une symétrie, des livres de longueur à peu près égale, lorsque vous avez plusieurs volumes. En fait, ils étaient souvent limités à certaines longueurs. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'il arrive à la fin d'un des volumes d'une de ses œuvres, dit « Oups, j'ai manqué de place. Je vous reparlerai dans le prochain tome. » Il fallait être prudent. Vous n'aviez qu'un espace limité dans le volume. Luc et Actes, si vous comptez le nombre de mots qu'ils contiennent et le nombre de mots dans l'évangile de Matthieu, ils ont chacun à peu près la même longueur que les autres. Marc mesure environ la moitié de cette longueur. John mesure environ les deux tiers de cette longueur. Nous avons probablement affaire à des longueurs de parchemin standardisées et celles-ci pourraient être très coûteuses. Encore une fois, Romains, il ne s'agit que de 16 chapitres de la longueur de Marc. Romains, certains chercheurs récents ont estimé que le prix des Romains serait d'environ 2 000 $ en monnaie américaine actuelle, en termes de prix du papyrus et du scribe, etc. Bien que le scribe là-bas, Tertius, depuis Romains 16, 22, était très probablement involontaire, mais il est certainement un croyant. Mais dans le cas des évangiles, il s'agit d'une entreprise littéraire majeure pour des personnes qui ne faisaient pas partie de l'élite. Ils utilisent donc probablement des parchemins de longueur standardisée. Et Matthieu, Luc et Actes étaient chacun proches de la longueur maximale des rouleaux normaux, entre 32 et 35 pieds de long. Actes mesurait probablement environ 32 pieds de long. C'était à l'extrémité la plus courte de ce continuum. Certains pensent que le livre des Actes est inachevé à certains endroits. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais c'est ce que certains ont soutenu. Cela a certainement tenté les scribes du texte occidental d'élargir le texte des Actes. Bien que certaines personnes pensent que Luc a ajouté cela plus tard, je pense que c'était probablement une tradition plus tardive. Mais en tout cas publication du livre des Actes. Eh bien, normalement, les œuvres anciennes étaient publiées, pour ainsi dire, après avoir été écrites. Il pourrait avoir deux exemplaires originaux. Il y aurait des lectures publiques lors des dîners. Eh bien, l'Église a également organisé son dîner de groupe. La scène du Seigneur était une sorte de banquet dans les premières églises de maison. Ainsi, certains banquets comporteraient des animations. Et le divertissement pourrait être de la danse ou de la musique. Habituellement, il s'agissait de musique, mais il pouvait aussi souvent s'agir de lecture. Dans ce cas, l'Église primitive n'aurait pas de divertissement, mais des lectures. Des lectures des Écritures dont il disposait, qui étaient l'Ancien Testament, mais aussi des lectures, comme le dit Justine Martyr, des Mémoires des Apôtres, qui incluraient, eh bien, il a particulièrement rencontré les Évangiles, apparemment. Grâce aux commentaires que les écrivains recevaient au cours de ces lectures, ils étaient souvent en mesure de les réviser. Ils les publiaient parfois dans diverses éditions. Et au fur et à mesure que les gens en entendaient parler, ceux qui les aimaient vraiment pouvaient en faire d'autres copies. Bien sûr, vous n'aviez aucun moyen de les produire en masse, sauf pour quelqu'un qui, vous savez, pourrait avoir une personne qui le lisait dans une salle pleine de scribes et l'écrivait. C'était ce qui se rapprochait le plus de la production de masse. Habituellement, les choses étaient simplement copiées d'un parchemin à un autre. Eh bien, l'un des objectifs possibles des Actes est juridique, pas nécessairement pour le procès de Paul en soi, mais pour enregistrer des précédents juridiques cohérents en faveur des premiers chrétiens. Chaque tribunal romain mentionné dans le livre des Actes, ainsi que dans l'évangile de Luc, les déclare non coupables. Certains pensent que les Actes étaient un mémoire judiciaire pour Paul. C'est probablement exagéré, mais cela a probablement été écrit pour la même raison que les précédents de Joseph pour le judaïsme, pour affirmer que le christianisme devrait être légal et ne pas être persécuté. Munition légale lorsque vous vous trouvez dans des circonstances comme Luc 21, 15, vous êtes amené devant des gouverneurs et des dirigeants à cause de mon nom. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir à l'avance à ce que vous allez dire, mais cela vous donnera à l'avance du matériel sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et cela a ouvert la voie à des avocats et philosophes chrétiens ultérieurs, comme Tertullien et Justine, qui s'opposaient à la persécution des chrétiens. Cela nous amène à parler de la finalité apologétique. Cela a été fait sur différents fronts. Les tribunaux romains, les philosophes grecs, les agriculteurs asiatiques ruraux et les objections juives. Les objections juives sont également pertinentes pour les tribunaux romains, car il était important de montrer que les personnes qui les traduisaient devant ces tribunaux romains n'étaient pas celles qui étaient cohérentes avec leur ancienne tradition. C'était en fait les disciples de Jésus qui étaient cohérents avec l'ancienne tradition. C'était un débat juif interne. Constance comme Luc 21, 15, vous êtes amenés devant des gouverneurs et des dirigeants à cause de mon nom. Vous n'êtes pas obligés de réfléchir à l'avance à ce que vous allez dire, mais cela vous donnera à l'avance du matériel sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et cela a ouvert la voie à des avocats et philosophes chrétiens ultérieurs, comme Tertullien et Justine, qui s'opposaient à la persécution des chrétiens. L'un des thèmes du livre des Actes est que rien ne peut l'arrêter. Le mot entravé et sans entrave n'apparaît que quelques fois dans le livre des Actes. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de me faire baptiser? Le responsable de la cour africaine dit dans Actes chapitre 8 ou dans Actes chapitre 10, qui peut leur interdire de recevoir le baptême? Mais dans Actes chapitre 28, verset 31, il se termine sur cette note que Paul a continué à partager l'évangile ouvertement et sans entrave. Tant que vous avez affaire à un système romain normal et pas après que Néron soit devenu fou et que tout le monde le considérait comme totalement abusif et tyrannique, ils étaient capables de faire les choses ouvertement et sans entrave. Ainsi, la relation avec le judaïsme était également très importante. Les religions anciennes étaient respectées pour leur époque et les croyants en Jésus pouvaient dire que l'Ancien Testament est notre livre et que nous sommes également une voie authentique du judaïsme. Ou plus précisément, dirait-il, nous sommes la voie authentique de la loi et des prophètes. Ainsi, Luc met naturellement l'accent sur la réalisation des motifs de l'Ancien Testament. Il le fait un peu différemment de Matthieu, mais tous deux mettent l'accent sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Et bien sûr, Luc écrit aussi parce qu'il se soucie de l'histoire. Sinon, il ne choisirait pas ce genre pour écrire. Le message de Luc acte. Je vais mentionner quelques-uns des thèmes, pas tous, mais juste quelques exemples. La prière était un problème majeur dans Luc acte. Luc 1, Luc 3, Luc 5, Luc 6, Luc 9, etc. Les signes et les prodiges sont un élément majeur pour attirer l'attention sur l'évangile. Nous pourrons en parler plus tard. L'Esprit est mentionné plus de 70 fois dans Luc acte. De toute évidence, Luc met fortement l'accent sur l'Esprit et également sur l'Esprit qui accomplit des signes et des prodiges et sur l'Esprit qui anime les gens dans la prière, etc. L'évangélisation ou le témoignage apparaît près de 30 fois. Eh bien, le terme témoin apparaît près de 30 fois. L'évangélisation est plus répandue que cela. Les marginalisés. Bien sûr, c'est un aspect majeur de l'évangile de Luc, l'accent mis sur les pauvres, etc. Vous en avez certains dans le livre des Actes, mais le principal groupe marginalisé qui est mis en avant dans le livre des Actes est celui des gentils. Ainsi, dans l'évangile de Luc, Jésus passe du temps avec des pécheurs moralement marginalisés et les pharisiens se moquent de cela. Les pharisiens s'en plaignent. Vous découvrez l'esprit qui pousse Pierre à répondre aux besoins des gentils en matière d'évangile. Et dans Actes chapitre 11, vers le verset 3, il est appelé sur le tapis par ses compagnons croyants. Le problème avec les pharisiens n'était pas qu'ils étaient juifs. Le problème avec les pharisiens n'était même pas qu'ils étaient pharisiens. Le problème avec les pharisiens était que parfois, en tant que personnes religieuses, nous avons nos idées sur la façon dont les choses devraient être faites et Dieu n'agit pas toujours dans nos cases. Ainsi, dans les Actes, vous avez les gens de l'église de Jérusalem, des juifs croyant en Jésus qui désapprouvent ce que Pierre fait jusqu'à ce qu'il soit capable de les convaincre, « Eh bien, écoutez, Dieu m'a fait faire ça. » L'Esprit s'est répandu sur ces gens. Dieu voulait atteindre ces gens. Vous mettez l'accent sur les marginalisés. Vous accordez également une grande importance à la communication interculturelle. La mission est, je dirais, l'accent central du livre des Actes. Et encore une fois, c'est quelque chose dont nous parlerons plus bientôt. En regardant en particulier quelques exemples de la question de la prière. Luc chapitre 1, verset 10, Zacharie prie dans le temple. Lorsque l'Esprit vient sur Jésus dans Luc 3.21, Luc est le seul à mentionner qu'à son baptême, Jésus était en train de prier. Et nous avons cela plusieurs autres fois. Ses disciples lui demandent, Luc 11, de nous apprendre à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils attendent qu'il ait fini. Ils sont très respectueux à ce sujet. Luc chapitre 18, verset 1, les gens doivent toujours prier et ne pas s'évanouir. Luc 19.46, la maison de prière. Luc 21, 36, veillez et priez. Luc 22, il appelle les disciples à veiller et à prier. Acte 1.14, ils sont rassemblés en prière, attendant le jour de la Pentecôte. Acte 2, 42, encore une fois, les disciples, tous les croyants prient ensemble. Et Actes 3h1, c'est pendant l'heure de prière, vous donnant un exemple précis de la façon dont ils allaient prier ensemble. Et puis Dieu fait un miracle. Acte 6, il prie avant de nommer des successeurs. Acte 8, également au verset 22 et 24, il prie avant que l'Esprit ne soit répandu. Acte 9, 11, Saul, Paul prie avant de recevoir l'Esprit et la guérison de sa vue. Acte 10, Acte 11, Acte 12, et ainsi de suite. Juste beaucoup de prières. C'est un thème important dans le livre des Actes. L'évangélisation du monde est également au centre de l'attention. Et c'est, je pense, l'accent majeur des Actes. L'évangélisation animée par l'Esprit au-delà des frontières culturelles, Acte 1, 8. Je passe maintenant à la question des miracles. C'est un gros problème. Si les discours occupent un quart du livre des Actes, les récits de miracles et les récits d'exorcisme occupent environ un cinquième du livre des Actes. C'est pourquoi j'ai fait des recherches spéciales à ce sujet. Mon livre en deux volumes sur les miracles était en fait censé être simplement une partie de mon commentaire des Actes. À l'origine, cela devait être une note de bas de page dans mon commentaire des Actes, mais après que le chapitre ait atteint environ 200 pages, nous avons réalisé qu'il devait s'agir d'un livre séparé. Et puis, lorsque le livre est sorti, il comptait alors 1100 pages, et cela aurait été encore plus si j'avais continué à l'écrire au lieu de le publier, car il y a tellement de choses à dire et tellement de matériel sur lequel travailler. Quoi qu'il en soit, à cause de cet intérêt pour le livre des Actes, j'ai commencé à faire des recherches sur les miracles, y compris ceux de Jésus. Eh bien, quelle est la fiabilité des sources? Eh bien, nous avons de bonnes raisons de le croire, car nous avons affaire à des biographies anciennes dans le cas des évangiles ou à une ancienne monographie historique dans le cas des Actes. Les sources sont fiables et nous avons affaire à des sources dont nous avons des raisons de croire qu'elles sont prudentes. De la manière dont Luc édite les miracles, il prend le relais de Marc, par exemple. Luc n'ajoute pas beaucoup de nouvelles informations. Il peut dire que tout le monde a glorifié le Seigneur, même si Marc ne l'a pas dit. Mais je veux dire, si les gens voient un miracle, que vont-ils faire? Certaines personnes sont devenues hostiles, mais la plupart des gens rendront grâce à Dieu s'ils croient en Dieu. Ainsi, si l'on considère les miracles de Jésus, les histoires de miracles constituent environ un tiers de l'évangile de Marc et environ 20% du livre des Actes. Mais en Occident, nous sommes confrontés à un problème circulaire. L'une des raisons pour lesquelles les érudits occidentaux ont remis en question les évangiles et les Actes est qu'ils contiennent des récits de miracles. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec les rapports miracles? Des érudits occidentaux antérieurs disaient que les témoins oculaires ne prétendaient jamais à des miracles dramatiques tels que ceux des évangiles. Était-il correct? Eh bien, dans de nombreuses régions du monde, les gens diraient que c'est absurde. Ce n'est pas exact. C'est un problème occidental. Donc, si vous venez d'une partie du monde où vous dites que c'est absurde, au moins ce que je vais vous dire, c'est que si vous rencontrez des gens qui ont été formés en Occident pour penser comme les Occidentaux, vous aurez quelques bonnes réponses pour eux. Et si vous êtes en Occident, vous en profiterez peut-être particulièrement. Mais David Friedrich Strauss, dans les années 1800, a soutenu que ce que nous avons dans les évangiles contient beaucoup de mythes et de légendes parce que ces choses surgiraient au cours de plusieurs générations. Aucun témoin oculaire ne prétendrait réellement à ce genre de miracle. Ces histoires ont dû naître de rien ou de quelque chose de très petit. Ce que la plupart des gens ne savent pas à propos de Strauss, c'est que Strauss avait un ami du nom d'Edouard Morica. Morica souffrait d'un problème à la colonne vertébrale qui l'empêchait de marcher. Mais après que Morica eut passé du temps avec Johann Christoph Blumhardt, un pasteur luthérien allemand connu pour ses prières pour les malades et ses exorcismes, Morica, l'ami de Strauss, fut guéri. La prochaine lettre que Strauss reçoit de lui, il fait une randonnée dans les montagnes. Et Strauss écrit une lettre à un autre ami commun et dit, « Oh, nous avons perdu Morica. Morica est désormais tombé dans la superstition. Maintenant, pensez à ceci. » Strauss dit que les miracles doivent provenir uniquement d'accumulations légendaires, sinon bon nombre des types de miracles que nous avons dans les évangiles ne seraient que des mythes ou des accumulations légendaires. Et pourtant, l'un des amis de Strauss a été guéri. Strauss l'a attribué à des causes purement psychosomatiques malgré le diagnostic médical. Mais Strauss n'a pas dit, eh bien, il s'agit simplement d'une légende qui a mis des générations à évoluer. Existe-t-il aujourd'hui des témoignages oculaires crédibles? Examinons d'abord quelques-unes des sources médicales. Le docteur Rex Gardner a écrit un livre intitulé Healing Miracle. Et il est lui-même médecin. Il a également écrit à ce sujet dans le British Medical Journal. mais l'un de ces récits concerne une fillette de 9 ans. Elle était sourde à cause de lésions du nerf auditif. Tant qu'elle n'avait pas ses appareils auditifs, elle ne pouvait rien entendre mais prier pour sa guérison. Elle fut instantanément guérie. L'audiologiste qui l'avait testée la veille de sa guérison a dit que c'était impossible. Il s'agit d'une lésion du nerf auditif. Cela ne disparaît pas simplement. Mais elle fut instantanément guérie. L'audiologiste a dit que je n'avais aucune explication à cela. C'est tout simplement incroyable car les tests du lendemain ont montré que son audition était normale. Des témoins oculaires, dont certains que je connais, rapportent la guérison de non-chrétiens sourds au nom de Jésus au Mozambique. Les gens iront dans des villages où il n'y a pas d'église et prêcheront Jésus. Ils projetteront le film Jésus. Et parfois, ils appellent les gens à la prière et ils sont guéris. Et parfois, ils prêchent simplement sur Jésus. Et avant d'avoir fini leur prédication, certaines personnes commencent à être guéries. Et j'en ai parlé avec des témoins oculaires. Cela a été si dramatique, notamment avec les guérisons de surdité, qu'une région entière qui était classée comme non chrétienne est désormais classée comme majoritairement chrétienne. Cela a été documenté par des tests médicaux. L'information a été publiée dans le Southern Medical Journal aux États-Unis en septembre 2010. Naturellement, certains critiques qui n'étaient pas satisfaits de cette approche ont répondu, notamment sur Internet, en disant que les conditions de test ne sont pas idéales dans les zones rurales du Mozambique. Cela peut être différent au moment où vous regardez cela, mais certainement, au moins au moment où ces tests ont été entrepris, c'est vrai. Les conditions de test n'étaient pas idéales dans les zones rurales du Mozambique. Mais l'un des auteurs de l'étude, professeur à l'université d'Indiana, a publié un livre, Testing Prayer, publié par Harvard University Press en 2012. Elle ne dit pas, d'accord, ce sont des miracles opérés par Dieu, mais elle en donne la preuve. Quelques autres preuves derrière l'étude. Et c'est, eh bien, je pense que c'est assez convaincant. Je pense que si vous ne partez pas du préjugé a priori selon lequel les miracles ne peuvent pas se produire, si vous êtes ouvert à la possibilité qu'ils puissent se produire, ce qui est en quelque sorte un point de départ neutre, n'est-ce pas? Si vous commencez même avec cette possibilité, vous seriez convaincu que les gens sont passés de sourds à entendants, d'aveugles à voyants, lorsqu'on a prié pour eux, parce que le test a été fait avant et après. Lisa Lario était mourante d'une maladie osseuse dégénérative. Ses parents ne lui avaient même pas dit qu'elle était mourante. Ils l'ont emmenée à une réunion d'un évangéliste guérisseur. Et quoi que vous pensiez des évangélistes guérisseurs n'est pas vraiment pertinent dans ce cas parce que l'évangéliste guérisseur n'a pas réellement eu l'occasion de prier pour elle. Mais dans cette atmosphère où les gens priaient et parlaient de prier pour la guérison, Lisa Lario a soudainement sauté de son fauteuil roulant et a couru partout. Eh bien, vous dites que c'était peut-être le cas, pour des raisons psychosomatiques, elle avait juste eu une poussée d'adrénaline, mais elle n'était pas physiquement capable de faire ça avant. Elle a ensuite été testée et les tests ont montré que non seulement elle était guérie de la maladie, mais que même là où ses os avaient dégénéré, ses os avaient été guéris. Cela ne se produit pas naturellement tout seul. Bruce Vanatta a été écrasé lorsqu'un semi-remorque lui est tombé dessus et la majeure partie de son intestin grêle a été détruite. Après plusieurs interventions chirurgicales, il lui restait peut-être un quart de l'intestin grêle. Et pour la partie de son intestin qui lui était nécessaire, l'iléon, il ne lui restait que 25 cm. C'est normalement 350 cm, donc même pas 10%. Il est passé de 180 livres à 125 livres alors qu'il mourait lentement de faim. Mais quelqu'un s'est senti amené à voler de chez lui à New York vers le Wisconsin et a prié pour Bruce et est venu le voir à l'hôpital et s'est senti amené à ordonner à son intestin grêle de grandir au nom de Jésus. Et Bruce sentit quelque chose comme une décharge électrique traverser son corps. La documentation médicale, qui est disponible, nous avons la documentation médicale. La documentation médicale, c'est quelque chose comme, vous savez, vous entendez parler de, eh bien, les gens disent parfois, eh bien, si Dieu fait des miracles, pourquoi n'avons-nous jamais un membre amputé qui repousse? Eh bien, nous n'en avons pas non plus rapporté dans le livre des Actes ou dans les Évangiles, mais cela équivaut à la repousse d'un membre amputé. L'intestin grêle n'a pas toute sa longueur, mais sa longueur totale est plus longue que nécessaire pour fonctionner normalement. C'est maintenant environ la moitié de la longueur normale. C'est entièrement fonctionnel. Il est passé de 116 cm de long à entre 275 et 300 cm de long, soit jusqu'à présent plus que doublé. L'intestin grêle peut s'élargir chez un adulte, mais il ne peut pas s'allonger. C'était donc un miracle et il n'y a aucune autre explication médicale à cela. Guérison instantanée d'un dos cassé, le docteur Nimbra du Nigeria a fourni celle-là. Un certain nombre d'autres témoignages de médecins, cicatrisant des plaies profondes. Carl Cockrell, membre d'une église baptiste américaine du Michigan, s'est cassé la cheville dans le Missouri, a été placé dans un plâtre et a été hospitalisé pendant la nuit. Il a eu l'impression que le Seigneur lui était apparu et l'avait guéri. Alors, le médecin du Missouri a dit, « D'accord, vous pouvez retourner au Michigan si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas conduire vous-même, mais votre femme peut conduire la voiture si vous le souhaitez. Mais vous devez immédiatement consulter votre propre médecin. » Suivi, le médecin là-bas, ils ont fait un nouveau rapport de radiologie et le médecin a regardé le nouveau rapport de radiologie, qui a été pris 8 jours après le premier, et a dit, « Eh bien, non seulement vous n'avez pas de cheville cassée, mais cela montre que tu n'as jamais eu une cheville cassée. » Un autre cas, Joy Winifred, qui souffrait d'un cas classique d'hétérophorie verticale, si classique en fait que c'était sa photo qui était utilisée sur le dépliant annonçant cette maladie. Et pourtant, lorsqu'une étudiante de l'université Taylor priait pour elle, elle fut instantanément et complètement guérie après des années de cette condition. Elle a également eu une rencontre spirituelle dramatique, et celles-ci sont également fréquentes dans ces domaines, mais j'essaie simplement de m'en tenir au sujet. Elle n'avait plus besoin de lunettes, contrairement à moi. Elle avait maintenant une vision de 20 à 20. Elle était guérie de tous les autres problèmes d'hétérophorie verticale. Maintenant, lorsque je vous donne la documentation médicale, les documents médicaux, même si j'ai le formulaire original avec tous les noms dessus, c'est considéré comme approprié aux États-Unis, et c'est aussi une exigence légale, si je comprends bien, du point de vue de la vie privée. Loi. J'ai omis les noms des médecins, mais j'ai les originaux qui contiennent les informations. Un autre médecin de Cuba m'a parlé de brûlures graves, après une demi-heure de prière, la main est devenue complètement normale, comme si elle n'avait pas été brûlée. L'Église catholique a conservé une documentation médicale minutieuse pour de nombreux miracles qu'elle rapporte, et dans de très nombreux cas, ceux-ci sont très convaincants. Les témoignages oculaires sont également importants, même pour les personnes qui ne sont pas médecins. Le témoignage oculaire est une forme de preuve en sociologie, en anthropologie, en journalisme, en historiographie, qui est très pertinente ici et en droit. Il y a beaucoup de choses que nous ne pourrions pas faire, nous ne pourrions pas savoir si nous ne pouvions pas utiliser des témoignages oculaires. Et les miracles étant des événements dans l'histoire, des événements uniques dans l'histoire, ils ne sont pas quelque chose de reproductible. Vous ne pouvez pas les expérimenter et les refaire. Comme si quelqu'un mourait, vous ne pouvez pas le tuer à nouveau pour voir comment cela a été fait. Mais vous pouvez compter dans une large mesure sur des témoins oculaires, et nous le faisons habituellement pour d'autres choses, et nous devrions le faire également pour des événements tels que les miracles. Et je vais donner quelques exemples tirés de mes entretiens ou de sources publiées que j'ai de bonnes raisons de croire fiables. Maintenant, quand je fais cela, gardez à l'esprit que le livre fait 1100 pages. Depuis, j'ai reçu plus de matériel, ce ne sont donc que des échantillons. La documentation médicale a été échantillonnée. Ces exemples sont également des échantillons. Mais un principe que je suis est qu'un plus petit nombre de témoins oculaires devrait compter plus lourdement qu'un plus grand nombre de non-témoins sceptiques. Et nous appliquerions cela à la plupart des autres types de réclamations. Par exemple, du moins dans ma culture, s'il y a un accident de la route, le policier voudra interroger les témoins qui étaient présents lors de l'accident. Alors, que se passe-t-il si quelqu'un arrive et dit que ce n'est pas ce qui s'est passé? Je sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et l'officier dit, eh bien, monsieur ou madame, pouvez-vous me dire ce que vous avez vu se produire? Eh bien, je n'ai rien vu se produire. Je n'étais pas là. C'est pourquoi je savais que cela n'était pas arrivé. Nous ne prendrions pas cela très au sérieux. Pourquoi prendrions-nous cela au sérieux si quelqu'un dit, eh bien, je sais que les miracles ne se produisent pas parce que je n'en ai jamais vu. Alors que nous avons, comme nous le découvrirons, des millions de personnes qui prétendent en avoir vu, ne devrions-nous pas commencer par au moins explorer certaines de ces affirmations? Certaines de ces affirmations ne s'avèrent peut-être pas être de véritables miracles, mais que se passerait-il si certaines le faisaient? Si une affirmation s'avère être de véritables miracles, alors nous devons prendre les miracles très au sérieux. Maintenant, je ne veux pas que vous me compreniez mal. Je ne prétends pas que toutes les personnes pour lesquelles on a prié soient guéries. Vous pouvez voir que j'ai une calvitie masculine. Je dois porter des lunettes. Et plus sérieusement, ma femme et moi avons fait des fausses couches. Ce n'est pas que nous n'avons pas prié. Ce n'était pas que nous n'avions pas la foi. Toutes les personnes pour lesquelles on a prié ne sont pas toujours guéries, mais Dieu le fait parfois et parfois de manière dramatique. Parfois, les gens disent, « Eh bien, vous n'avez aucun témoin crédible. » C'était l'argument de David Hume. Aucun témoin crédible n'était quelque chose à perdre. Wansuk et Julima, je pense, devraient être considérés comme crédibles. Wansuk est le directeur du Oxford Centre for Mission Studies, où Julie enseigne également. Ils sont tous deux titulaires d'un doctorat. Et bien sûr, l'Oxford Centre for Mission Studies se trouve à Oxford. Un jour, j'en parlais à l'université d'Oxford lors d'une conférence et je me suis dirigé vers le centre d'études missionnaires d'Oxford pendant une pause et j'ai dit, eh, Wansuk, je viens de partager ton histoire. Mais en tout cas, ils ont rapporté avoir vu un certain nombre de guérisons. Mais l'une des guérisons qu'ils ont signalées était une guérison pour laquelle il n'était pas vraiment nécessaire d'être médecin pour reconnaître qu'il s'agissait de quelque chose de dramatique. Un gros goitre disparut instantanément pendant qu'il priait. Ils étaient des témoins. Il y avait d'autres personnes présentes qui étaient des témoins. Un autre cas est celui de Luther O'Connor. Il est professeur adjoint d'études méthodistes unies au United Theological Seminary. Il a prié pour une femme aux Philippines et elle avait un implant métallique inflexible dans la jambe. Elle n'avait pas réussi à plier la jambe. Vous pouvez voir la cicatrice à l'endroit où il a été inséré. Eh bien, il a prié pour elle et elle a senti une chaleur dans sa jambe. Et soudain, elle fut étonnée et elle s'accroupit, ce qu'on aurait normalement cru qu'elle n'aurait pas pu faire. Elle s'est accroupie et alors vous voyez qu'elle était complètement guérie. Si vous pouvez montrer qu'elle était capable de plier la jambe. Maintenant, je n'ai pas les résultats médicaux ici. Je ne peux pas vous dire si l'implant métallique a disparu, mais s'il était toujours là, c'était désormais un implant métallique pliable car elle était capable de plier sa jambe. J'ai demandé à Danny McCain, parce que nous avons travaillé ensemble au Nigeria pendant 3 étés, mais il y exerçait son ministère depuis des décennies. J'ai supposé qu'il allait me donner des rapports de témoins oculaires du Nigeria. C'est un pasteur wesleyen. J'essaie juste de vous montrer que cela est rapporté dans un large éventail de différents types de cercles chrétiens. Eh bien, a dit Danny, je peux maintenant vous raconter quelque chose dont j'ai été témoin aux États-Unis quand j'étais un garçon. Mon petit frère est tombé dans une baignoire avec de l'eau bouillante. Il a été très gravement brûlé par cette eau très chaude qu'on y avait mise. Danny a expliqué en détail comment cela se faisait à l'époque, mais il était si gravement échaudé que lorsque les médecins essayaient de lui enlever ses vêtements, sa peau se déchirait. Alors il priait pour son petit frère. Et pendant qu'il priait, il remarqua soudain que son petit frère avait arrêté de pleurer. Et il a levé les yeux et il a vu que la peau de son petit frère, qui avait été entièrement échaudée, très, très gravement brûlée, était maintenant brillante et rose, complètement neuve. Danny dit que je m'en souviens comme si c'était hier. Et bien sûr, de nombreux autres témoins étaient présents. Mon frère Chris et moi avons été témoins de quelque chose alors que j'étais encore un jeune chrétien et mon frère Chris était également un jeune chrétien. Chris a ensuite fait un doctorat en physique, ce qui m'intéressait à l'époque. Mais nous en avons été témoins. Nous étions tous les deux de nouveaux croyants. Nous aidions dans une étude biblique dans une maison de retraite et il y avait là une femme nommée Barbara. Et chaque semaine, Barbara disait, « J'aimerais pouvoir marcher. J'aimerais pouvoir marcher. » Eh bien, un jour, le responsable de l'étude biblique, Don, a dit, « J'en ai marre de ça. » Et il se dirigea vers Barbara. Il l'a attrapée par la main. Il a dit, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » J'étais horrifié. Si la foi peut être considérée comme un préjugé, on ne peut pas m'en être accusé dans cette affaire. Je pouvais le dire à l'expression de son visage, elle était également horrifiée. Si c'était psychosomatique, ce n'était pas parce qu'elle avait la foi. C'était parce que Don l'avait fait. Et ce n'est pas ainsi que la psychosomatique est censée fonctionner. Mais de toute façon, je pensais qu'elle allait tomber à plat. D'après l'expression de son visage, je pensais qu'elle allait tomber à plat, mais il l'a accompagnée dans la pièce. Et à partir de ce moment-là, Barbara pouvait marcher. Cécité guérie. Je vais juste en donner différentes catégories maintenant. J'ai trouvé quelques 350 rapports de cécité guérie. Je ne saurais pas comment les évaluer pour certains d'entre eux, mais d'autres sont très dignes de confiance. Encore une fois, certains d'entre eux proviennent du docteur Rex Gardner. Mais je vais me concentrer sur certains récits qui n'ont pas été publiés ailleurs, des récits de personnes que je connais directement et qui ont été témoins de cela. En 2004, Flint McLoughlin, directeur du Transforming Business Institute de l'Université de Cambridge, a prié pour un homme aveugle aux yeux voilés du nord de l'Inde. Et l'homme fut instantanément guéri. Ce n'était pas seulement Flint qui était présent, mais d'autres témoins oculaires qui m'ont depuis partagé leur récit à ce sujet. C'est le champ où l'homme courait en rond, louant Dieu. Et c'est ici qu'il racontait son histoire. Je crois que c'était peut-être un orphelinat ou quelque chose comme ça, mais où que ce soit, il racontait une histoire et il s'est mis à pleurer. Et l'un des Américains qui était là a dit, « Pourquoi pleures-tu ?» Il a dit « Parce que j'ai toujours entendu des enfants, mais je n'ai jamais vu leur visage auparavant. » Et voici donc quelques Américains avec lui. Dr. Binga Shibaku Kato, un de mes amis, nous avons travaillé ensemble sur les questions de réconciliation ethnique. Eh bien, c'est sur cela que nous travaillons. Il est président de l'université Shalom à Bunia, Congo RDC. Mais parce que j'écrivais ce livre sur les miracles à ce moment-là, je lui ai demandé, « Eh bien, as-tu déjà vu quelque chose ?» Il a dit, « Oh ouais. Il y a des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, moi et certains de mes amis étions en train d'évangéliser dans un village et ils nous ont amené une femme d'une soixantaine d'années qui était aveugle et nous ont demandé si nous pouvions prier pour elle. Il a dit que rien d'autre ne l'avait aidée. L'aide médicale n'a pas fonctionné. Les chamans et les guérisseurs traditionnels n'ont pas aidé. Pouvez-vous faire quelque chose ? Ils ont dit que nous n'avions jamais essayé cela auparavant. Cela ne faisait pas partie de la tradition de leur église, mais nous sommes venus pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, prions simplement et voyons ce qu'ils pourraient faire. Ils ont prié pendant environ 2 minutes et elle a commencé à crier, « je peux voir », et à danser. Elle est restée voyante pour le reste de sa vie. Un de mes étudiants, un baptiste du Cameroun, a obtenu son doctorat en ministère dans un séminaire où j'enseignais. Paul Mokak, il a prié pour quelqu'un qui avait les yeux aveugles étaient ouverts. Eh bien, il a eu un certain nombre d'histoires de miracles différentes. Ce n'est donc pas celui-là qui l'a porté à mon attention, mais un de mes autres étudiants, une étudiante afro-américaine nommée Yolanda, qui était en visite au Cameroun, en a été témoin. Elle nous en a parlé. Alors, j'ai demandé à Paul et il a dit, « Oui, c'est arrivé. » Nous avons des récits de Gabriel Waldu en Éthiopie, ainsi qu'un certain nombre d'autres récits. Je vais cependant sur un conte de Greg Spencer. Greg Spencer devenait aveugle à cause de la dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire n'est pas quelque chose qui s'inverse normalement. Donc il devenait aveugle. À ce stade, il était déjà aveugle au sens de la loi, avait été mis en invalidité et avait reçu une formation sur la façon de fonctionner comme une personne aveugle. Il est allé à une retraite où il priait pour la guérison de son esprit. Il ne priait pas pour la guérison de sa vue, mais Dieu lui a accordé un bénéfice supplémentaire. Non seulement Dieu a guéri son esprit, mais quand il a ouvert les yeux, il a réalisé qu'il pouvait voir. Il a été testé. Ils étaient d'accord qu'il pouvait voir, mais la sécurité sociale lui avait dit, « Eh bien, tu n'es pas obligé de travailler. Vous êtes en invalidité. » C'est quelque chose aux États-Unis où nous prenons soin des gens qui ont besoin d'être pris en charge. Il s'est rendu compte qu'il pouvait voir, mais ils n'ont pas été facilement convaincus car ils ont dit que non, il devait s'agir d'une fraude. Vous avez dû faire semblant de ne pas voir, car la dégénérescence maculaire ne disparaît pas. Mais après un an d'études, après avoir consulté tous les médecins, ils ont finalement publié un rapport et ils ont dit, « Eh bien, il a connu un retour remarquable de son acuité visuelle et donc il ne sera plus handicapé. Il doit retourner au travail. » Je vais donner d'autres récits de quelque chose qui n'est normalement pas considéré comme psychosomatique. Habituellement, la guérison de la cécité n'est pas psychosomatique. Il est très rare qu'une personne soit aveugle d'un point de vue psychosomatique, notamment en cas de cataracte ou de dégénérescence maculaire. Et nous avons des récits de personnes guéries dans ce genre de circonstances. Lors de la résurrection des morts, les gens ne sont normalement pas considérés comme morts psychosomatiquement. Désormais, une personne peut être diagnostiquée à tort comme morte. Parfois, on suppose à tort que quelqu'un est mort, mais nous ne supposons pas que cela se produit de manière très courante, car si c'était le cas, nous aurions alors enterré beaucoup de gens prématurément. Donc, vous savez, je ne sais pas à quelle fréquence cela arrive, mais on ne s'y attendrait pas à moins d'enterrer des tas de gens prématurément. On ne s'attendrait pas à ce que cela se produise, disons, plus qu'une personne sur 10 connaît quelqu'un à qui cela est arrivé ou qui a été témoin de cela. Et pourtant, quand j'ai commencé à demander autour de moi, je ne le savais pas avant parce que je n'avais pas demandé, mais quand j'ai commencé à poser des questions entre ma femme et moi, nous connaissions au moins 10 personnes et ce sont des personnes que nous connaissions assez bien. Nous pourrions étendre l'enquête au-delà de cela, mais nous connaissions environ 10 personnes qui avaient été témoins ou expérimenté de telles réanimations. Maintenant, quelles sont les chances si vous dites une chance sur 10 que nous connaissions quelqu'un, ce qui je pense est assez généreux car les chances sont probablement inférieures à cela, à moins que nous n'enterrions vraiment beaucoup de gens prématurément. Si la probabilité est d'une chance sur 10, alors pour que nous connaissions environ 10 personnes, la probabilité serait d'environ 1 sur 10 milliards, 1 sur 10 à la puissance 10. Vous savez, il n'y a aucun moyen de calculer précisément les chances, mais ce que j'essaie de souligner, c'est que ce n'est probablement pas une simple coïncidence, car dans les cercles où les gens prient, ce genre de choses se produit parfois. Ils semblent se regrouper en cercles où les gens prient. Et c'est justement moi qui ai écrit ce livre. Ce qui rend cela encore plus improbable, c'est une coïncidence. Nous avons un certain nombre de ces rapports à travers l'histoire. Nous avons ce rapport chez les pères de l'Église. À plusieurs reprises, Irénée parle de cette partie de l'Église, où il condamne les gens qu'il considère comme schismatiques et qui ont de fausses doctrines. Il dit, « Mais il y a cette autre partie de l'Église qui fait partie de la véritable Église et ils ont rapporté un certain nombre d'élévations. » Dieu est donc clairement à l'œuvre dans la véritable Église. John Wesley, il y a une expérience qui semble être une évocation dans son journal. C'est donc comme si cela s'était produit le 25 décembre 1742. Il a prié pour Monsieur Myrick qui semblait mort et il a ressuscité. Nous avons des rapports de médecins. L'un d'eux vient du docteur Sean C. Crandall, cardiologue à West Palm Beach. Un homme nommé Jeff Markin s'est présenté à l'hôpital. Il était mort depuis 40 minutes au moment où le docteur Crandall a été appelé. C'est mort, ce qui signifie plat. Il n'avait aucun battement de cœur. Ils avaient essayé de le réanimer, mais il n'avait plus de battement de cœur et il ne pouvait rien faire. Ainsi, le docteur Crandall a été appelé pour certifier l'évidence en tant que cardiologue et il l'a certifié. Il retournait faire ses tournées dans une autre partie de l'hôpital lorsqu'il eut l'impression que le Saint-Esprit l'incitait à retourner prier pour que cet homme ait une autre chance. Or, c'est évidemment très rare. Normalement, les gens n'ont pas d'autre chance, mais il est revenu et un de ses collègues est entré avec lui et il a prié pour cet homme et a dit, « Mon Dieu, si tu veux que cet homme ait une autre chance de te connaître, je prie pour que je le ressusciterai des morts. » L'infirmière le regardait comme s'il était fou. Mais le docteur Crandall s'est tourné vers son collègue et lui a dit de le choquer encore une fois avec une pagaie. Il ne lui avait pas encore retiré tous les appareils. Oh, l'infirmière commençait à préparer le corps pour la morgue. Et l'autre médecin a dit, nous étions tous d'accord sur le fait qu'il était mort. Je veux dire, tu pourrais regarder ses mains, m'a dit le docteur Crandall. Ses doigts étaient déjà noirs à cause de la cyanose, mais il l'a électrocuté une fois avec une pagaie et quelque chose de remarquable s'est produit, quelque chose qui n'arrive normalement pas même après qu'une personne soit restée à plat pendant une minute. Immédiatement, l'homme a eu un rythme cardiaque normal et l'infirmière a commencé à crier, « Docteur Crandall, docteur Crandall, qu'avez-vous fait ?» 6 minutes sans oxygène, une personne devrait au mieux subir des lésions cérébrales irréparables, si elle peut être réanimée. Mais c'était un samedi et lundi, le docteur Crandall est retourné à l'hôpital. Il est allé rendre visite à l'homme et ils ont parlé. L'homme n'a pas subi de lésions cérébrales et s'est rétabli. Et voici une photo du docteur Crandall participant au baptême de Jeff Markin. Il a eu une autre chance et il a fini par connaître le Seigneur. Le docteur Sean George est médecin en Australie. Il est décédé en présence de confrères médecins. Il avait une crise cardiaque. Il s'est enregistré lui-même et ils ont passé 55 minutes à essayer de le réanimer. C'était leur collègue. Il leur était précieux. Mais finalement, ses organes tombaient en panne. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont dit à sa femme, qui était avec lui, que tu devais entrer et lui dire au revoir, puis nous le retirerons du système de réanimation car il n'y a plus d'espoir. Elle s'est agenouillée et a prié pour que Dieu le rétablisse. Immédiatement, son cœur se mit à battre. Un de ses collègues a dit plus tard que c'était la pire chose que je puisse imaginer, car son cœur se met à battre. Tôt ou tard, il faudra le retirer du système de réanimation car à ce stade, son cerveau est un légume. Je veux dire, il n'y a aucun moyen qu'il soit restauré. Eh bien, il a fallu un certain temps pour que sa restauration soit complète, mais il n'a subi aucune lésion cérébrale et il pratique à nouveau la médecine. Pour ceux qui disent que ces choses n'arriveraient jamais aux États-Unis, le docteur Deborah Watson était ma collègue du Nouveau Testament, une de mes collègues du Nouveau Testament dans un séminaire où j'enseignais. Debbie a grandi dans la maison d'un pasteur baptiste. Son père était un pasteur baptiste. Sa petite sœur, lorsqu'elle était bébé, était dans un berceau perché très haut. D'une manière ou d'une autre, il a bougé et sa petite sœur est tombée de très haut. Elle a atterri sur un sol en béton, à l'arrière de la tête. Ils coururent vers elle, sans aucun bruit, sans mouvement. Le père est venu la chercher. C'était comme si l'arrière de son crâne était écrasé. Ils l'ont emmenée chez le médecin, priant frénétiquement tout le long du chemin. Le médecin l'a prise à part pour s'occuper d'elle, puis est ressorti après quelques minutes et lui a dit « Où avez-vous dit que vous aviez senti que son crâne était écrasé ?» Il remit sa main sous la nuque et l'arrière de la tête. Il n'y avait rien de mal. Elle allait bien à partir de ce moment-là. La photo que j'ai montrée est une photo de lorsqu'ils étaient ensemble en famille pour Thanksgiving. Elle a maintenant la quarantaine, du moins à ma dernière vérification. Nous avons un certain nombre de réclamations concernant des levées de fonds en provenance d'Inde. Dans une thèse parlant du début d'un mouvement populaire, de gens se tournant vers la foi en Christ parmi le peuple tribal Nishi, à l'époque où il y avait très peu de chrétiens, ou peu, voire aucun, parmi le peuple tribal Nishi, il y avait un représentant du gouvernement, dont le fils était en train de mourir et les sacrifices à différents dieux avaient échoué. Aucune aide médicale n'avait fonctionné. Le pharmacien a suggéré, « Pourquoi n'essayez-vous pas de prier Jésus, le Dieu chrétien ?» On dit qu'il a ressuscité un certain Lazare. Le fonctionnaire est donc reparti et, d'après ce qu'il pouvait en juger, son fils était maintenant mort. Il dit, « Jésus, toi, le Dieu chrétien qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, je te suivrai si tu ressuscites mon fils. » Je ne prétends pas que c'est quelque chose qui fonctionnera toujours, que cela arrive toujours, mais c'est ce qu'il a dit dans ce cas-là. Son fils a été élevé. Il est devenu croyant. Cela a déclenché un mouvement populaire parmi le peuple tribal Nishi, et c'est à cela que la propagation de l'évangile parmi ce groupe de personnes a été attribuée, et cela ces derniers temps. Deux sociologues occidentaux étaient tous deux chrétiens, ils ne sont pas pentecôtistes, mais ils étudiaient le pentecôtisme mondial. Ils ont interrogé la population locale d'une communauté, y compris un ancien d'un village hindou, où il a été rapporté qu'une femme était revenue à la vie après avoir été déclarée morte, sans respiration ni pouls. Dans un autre cas, un pasteur indien a prié pour une jeune fille morte avec des vers qui lui sortaient du nez. Dans ce cas, le décès n'était probablement pas dû à une erreur de diagnostic. Elle était probablement morte dans un état grave. Elle est revenue à la vie. Elle a raconté son expérience de l'au-delà. Les journaux locaux ont couvert l'histoire, elle était donc bien connue dans la communauté locale. Un pasteur de Mimbé a partagé avec moi un récit survenu dans un centre de retraite. C'était un centre de retraite non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde, et ils y tenaient une retraite dans une église, mais il y avait aussi d'autres familles là-bas. Ils trouvèrent un garçon hindou, Vikram, allongé au fond d'une piscine. Ainsi, l'un d'eux, une infirmière, et un autre, un intercesseur, ont emmené le garçon pour essayer de l'emmener à l'hôpital, tandis que le reste du groupe restait sur place et priait pour lui. Eh bien, ils sont arrivés à l'hôpital. Le premier médecin a dit que cet enfant était mort. Il n'y a rien que je puisse faire. Je ne peux pas gérer ça. Ils l'ont emmené chez un autre médecin et ce médecin a vaillamment fait de son mieux pour réanimer le garçon, mais rien n'a pu être fait. Alors, une heure et demie plus tard, ils reviennent et ramènent Vikram là où les autres prient et Vikram est désormais vivant. Et en fait, ces photos que vous avez vues et que vous voyez maintenant de Vikram datent d'après sa résurrection. Parfois, dans le cas d'une noyade en eau froide, une personne peut survivre un certain temps après la noyade, mais même dans ce cas, il faut un certain temps pour que la personne soit réanimée et se rétablisse complètement. Il était complètement rétabli et l'eau n'était pas froide. Ce n'était pas une noyade dans l'eau froide, sans glace ou quoi que ce soit du genre. Il a dit qu'il avait entendu le nom de Jésus et qu'il avait ensuite été délivré. Ses parents hindous savent qu'ils n'avaient jamais entendu ce nom auparavant. Et voici quelques photos de Vikram et de sa famille rejoignant les chrétiens dans leur culte. Il y a une sœur que j'ai interviewée aux Philippines. On lui a diagnostiqué un cancer du foie en 1983, mais elle n'avait pas les moyens de se soigner. Je pense qu'elle avait peut-être une aspirine tout le temps. L'année suivante, elle fut emmenée à l'hôpital simplement pour achever de mourir. Son ventre était enflé. Elle a été déclarée morte et envoyée à la morgue. 1h45 plus tard, à la morgue, une pasteur baptiste y priait avec une de ses amies. Et j'ai dit, Pourquoi le pasteur Baptiste priait-il? Est-ce qu'elle priait pour que tu sois réanimé ou quoi? Elle a dit, « Je ne pense pas que ce soit pour cela qu'elle priait, mais je ne sais vraiment pas pourquoi elle priait. J'étais mort. » Ainsi, certaines personnes rapportent une expérience post-mortem. Dans ce cas, m'a dit mon ami, je n'ai rien vécu. C'était comme si je dormais et puis je me suis réveillé. Mais dans le cas d'aujourd'hui, elle est revenue à la vie. Son ventre n'était plus enflé. Elle n'avait plus le cancer. Et le médecin qui lui avait dit qu'elle allait mourir ne croyait pas que c'était elle. Et lorsqu'elle a découvert que c'était elle, le médecin s'est converti. Le récit suivant que j'ai reçu provenait d'un de mes voisins. Mon voisin vient d'Indonésie. Et le récit qu'il m'a donné venait d'un de ses amis proches. Je vais montrer quelques photos de cela, mais s'il vous plaît, fermez les yeux pendant cela si vous n'êtes pas doué pour gérer la vue du sang. La scène originale était en réalité plus sanglante, mais le corps avait été déplacé. Comme vous pouvez le constater, Dominguez a eu le cou coupé d'une manière à laquelle une personne ne pourrait normalement pas survivre. Et les gens qui transportaient son corps comme s'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit vivant. Maintenant, ce sont des photos qui ont été prises aux informations. Il avait besoin d'une intervention médicale, mais les médecins pensaient au départ qu'il était mort, mais il avait eu une vision du paradis. Le Seigneur l'a renvoyé dans le corps. Ainsi, lorsque les médecins ont réalisé qu'il était vivant, ils lui ont recousu le cou. Ils ont fait un excellent travail avec ça. Il a encore la cicatrice qui le montre, mais il est vivant. J'ai donné certains de ces récits lors d'une conférence d'universitaires, car les universitaires occidentaux ne croient souvent pas à ces choses. Et nous arrivons aux histoires de miracles dans les évangiles ou dans les actes et les traitons comme si elles posaient problème. Donc, je suggérais que peut-être que si nous écoutions davantage certains témoignages du monde majoritaire, nous pourrions apprendre certaines choses sur au moins une manière différente de voir les choses. Quand j'ai fini, l'une des personnes qui avait une question ou un commentaire était le professeur Ayodeji Adewaya, AYO, nous l'appelons. Vous pouvez voir AYO et son excellent enseignement sur 2 Corinthiens sur biblicallearning.org. Il s'est levé à l'arrière et a dit, « Eh bien, en fait, il est professeur aux États-Unis maintenant, mais il vient du Nigeria. » Il a dit que lorsque mon fils est né en 1981, il a été déclaré mort à la naissance. Nous avons prié pour lui pendant une demi-heure. Au départ, j'avais écrit 20 minutes. Il a dit non, non, c'est 30 minutes. Mais ils ont prié pour lui pendant une demi-heure et son fils est revenu à la vie. Son fils n'a subi aucune lésion cérébrale et il a maintenant terminé sa maîtrise en sciences à l'Université de Londres. Un autre ami avec qui j'ai travaillé pendant 3 étés au Nigeria. Et il est chargé de recherche pour un ministère là-bas. Il avait exercé beaucoup de ministères dans différentes régions du pays et effectué de nombreuses recherches dans différentes régions du pays. Alors, je me suis dit, eh bien, maintenant je travaille sur ce livre de miracles, laisse-moi juste demander à Léo. Alors, je demandais juste à des amis africains, avez-vous des comptes? Léo, as-tu des comptes? Et Léo a répondu, eh bien, pas beaucoup. Ainsi, il m'a envoyé seulement 7 pages de rapport sur des miracles dont il avait directement connaissance. Et l'un d'eux se trouvait dans un village du nord du Nigeria où il faisait des recherches. Les voisins de son hôte lui remirent leur enfant mort, du moins autant que l'on puisse en juger, l'enfant était mort. Et il a pris l'enfant à part et a prié pendant quelques heures, a-t-il dit, puis il a finalement rendu l'enfant vivant à ses parents. Un autre exemple, c'est quelqu'un que je connaissais du même ministère. Maintenant, dans son cas, je n'ai même pas pensé à lui demander, mais d'autres personnes que je connaissais m'ont dit, « Oh, tu devrais lui demander parce que cela lui est arrivé. » Timothée Olanodet. J'avais vu la cicatrice qu'il avait, mais je ne lui avais jamais demandé de quoi il s'agissait. Et nous n'avions pas parlé de miracles, donc je ne lui avais jamais demandé, « As-tu vu des miracles ?» Mais d'autres personnes m'en ont informé, alors je lui ai écrit et il m'en a parlé. En 1985, il a eu un grave accident de voiture. Et il y avait 2 personnes, une dans chaque véhicule, qui ont été déclarées mortes. L'autre personne qui se trouvait à bord de son véhicule a perdu ses jambes, mais son décès a été constaté. La police n'a trouvé aucun pouls ni battement de cœur. Ils l'ont emmené à l'hôpital. De l'hôpital, il a été envoyé à la morgue. Vers 3 heures du matin à la morgue, ils l'ont trouvé en train de bouger et l'ont renvoyé à l'hôpital. Il était dans cet état depuis environ 8 heures. Les médecins pensaient désormais qu'il souffrirait de graves lésions cérébrales. Il avait effectivement besoin d'une aide médicale. Il a été hospitalisé pendant 3 semaines avant d'être libéré, mais il était en vie et ne présentait pas de lésions cérébrales permanentes. Et le chirurgien, qui était également professeur de médecine, a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer cela que par un miracle. Et Timothy est désormais un leader du mouvement missionnaire nigérian. Et j'ai enseigné pendant 3 étés et je le connais très bien. Il est également prêtre anglican à ce stade. Maintenant, vous savez, vous pourriez dire, eh bien, peut-être que si vous priez simplement pour tous ceux qui meurent, de temps en temps, quelqu'un reviendra à la vie. Alors parfois, je demandais aux gens, je demandais à Léo, as-tu déjà prié pour que quelqu'un d'autre soit élevé? Il a dit, dans son cas, oui, une fois. J'ai prié pour mon meilleur ami qui est décédé et il n'est pas revenu à la vie. Mais 1 sur 2, ce n'est pas si mal. Je veux dire, lorsque l'évangile était en jeu dans un village, cette fois-là, la personne revenait. J'ai demandé à Sean C. Crandall, le cardiologue. Il a dit oui, une fois auparavant, mon propre fils est mort de leucémie. Et c'était dévastateur. J'ai prié pour qu'il ne revienne pas. Mais j'ai décidé que j'allais faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive, parce que Dieu est digne de notre confiance, qu'il fasse quelque chose que nous demandons ou non. Et c'est pourquoi j'étais prêt quand j'ai senti que l'Esprit me conduisait à prier pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas, c'était l'Esprit qui le poussait directement à le faire. Maintenant, lors de la prochaine session, je vais vous donner quelques témoignages supplémentaires. Ces récits sont des récits que je connais au sein de ma propre famille, de mes proches et surtout de la famille de mon épouse. Je pourrais vous en donner un de mon côté, mais c'est comme quelque chose que mon frère sait plutôt que comme quelque chose de direct. Donc, juste tout cela pour dire, c'est probablement plus qu'une coïncidence si ce sont des cercles où, pour l'amour de l'évangile ou sous la direction directe de l'esprit, Dieu a suscité quelqu'un. Nous en reparlerons davantage lors de la prochaine séance. Il s'agit du docteur Craig Kinner dans son enseignement sur le livre des Actes. Il s'agit de la session 4, Crédibilité des miracles.